Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Écho du premier trimestre attendu, parce que c'est un peu la limite où tu te dis, c'est bon, j'ai me projeté. Donc on arrive, on voit qu'il est là, on entend le cœur battre, et là c'est bon, quoi. Là, moi, je suis maman. Et je vois qu'il est là, il s'est accroché, ça ressemble à un bébé, le cœur bat, enfin... Donc l'écho se passe, et puis à la fin de l'écho, la sage-femme, un petit blanc quand même, et la sage-femme qui nous dit, bon, tout va bien, mais clarté nucale épaisse. Donc la nuque trop épaisse par rapport aux normes. Moi, ça tilte tout de suite.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée. Et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Justine, salut.
Salut.
Comment ça va ?
Ben, ça va bien.
Merci beaucoup de venir jusqu'à moi.
Ben non, merci à toi de venir.
Ah oui, c'est vrai, je suis à Lyon. Justine, tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois de ça, qui m'avait un peu interpellé. Mais bon, comme effectivement tu vivais à Lyon, je me disais, bon, on verra plus tard pour savoir avec Justine. Et tu disais que tu aimais bien écouter Histoire de Daronne, parce que c'était un mec qui interviewait. Et tu disais, parfois, tu te dis des trucs qui me gonflent un peu.
Ouais, exactement.
Comme quoi, par exemple ?
Ben, c'est pour ça que j'aime bien écouter.
Ouais.
Alors, j'écoute beaucoup de podcasts qui sont tenus par des femmes.
Oui.
Déjà parce qu'il y en a une grande majorité.
Bah oui.
En tout cas, pour des sujets qui m'intéressent.
Sur la maternité,
exactement.
Etc. Quoi.
Et en fait, je te connais de Mademoiselle.
Oh là là, à l'époque.
À l'époque, quand moi-même j'étais ado.
Oui, ça me met un coup de vieux.
Voilà. Et je suis tombée sur ton podcast et effectivement, tu m'as un peu agacée.
Qu'est-ce que j'ai fait pour t'agacer ?
Non, mais parce que c'est des réactions de mecs.
Mais comme quoi ? C'est quoi les réactions de mecs ?
Des réactions de mecs.
C'est tout. Tu vas juste t'arrêter là. Tu vas dire que tu as des réactions de mecs comme si j'étais un...
Bah que, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de femmes qui vont comprendre ça.
Ok.
Non, moi, la première fois que j'ai écouté, alors je me rappelle plus le prénom de la jeune femme que tu avais rencontrée qui venait de parler de la stérilité de son mec.
Oui.
Et tu étais très interrogateur sur elle, sa volonté d'avoir un enfant tout de suite. Elle avait son truc très programmé, machin. Et alors, tu t'es assez excusée de poser des questions, justement. Enfin, excusée.
Bah ouais.
Voilà. Mais
c'est des questions
justement, à ce moment-là, je me suis dit, c'est bien des remarques de mec, quoi.
Ok.
Ouais.
C'est des questions un peu pas rentre dedans, mais c'est des questions ouais. un peu dures, parce que pour moi, ça sert strictement à rien de juste écouter la personne et de faire en sorte de prendre, enfin si, je pourrais juste prendre ce qu'elle est en train de dire, tu vois, mais je trouvais ça intéressant de venir questionner.
Mais c'est justement...
Mais c'est pour ça que j'aime bien faire ce podcast, c'est parce que j'aime bien questionner,
ouais.
tu vois.
Mais c'est justement moi ce qui m'a un peu agacée, effectivement, ouais. mais ce qui me fait questionner, moi, de mon côté,
ouais.
tu vois.
Parce que justement, je trouve que dans les podcasts entre femmes, il y a un peu un truc où c'est convenu
oui.
entre les femmes, tu vois.
C'est vrai.
Et en fait, bah, de ce fait-là, quand toi, t'écoutes ça extérieurement, bah, t'es là, bah, en fait, vous creusez pas le sujet parce que vous avez l'air de connaître toutes les deux les réponses.
Exactement. Non, mais c'est vrai.
Et surtout, pour moi, il y a un vrai truc où c'est hyper important, je trouve. Et tu vois, c'est un peu, je crois, ce qui a fait le succès de Mademoiselle. C'est que, en fait, comme j'étais un mec, j'étais ouais. complètement extérieur et je posais des questions à la con tout le temps.
Hmm?
J'étais là, mais je comprends pas pourquoi, tu vois.
Ouais.
Et de ce fait-là, ça a amené un peu à un autre niveau de réflexion qui était, bah, venez, on essaie d'expliquer pourquoi on est en train de penser. Bon, bref.
Voilà. Non, mais je pense que t'as tout à fait raison et je pense qu'effectivement, c'est... Enfin, tout à fait raison. Non, je pense que ce que tu, ton explication, elle est hyper judicieuse.
Mais j'ai pas raison. Je m'en fous d'avoir raison en plus, tu vois. Pour moi, c'est juste l'important, c'est juste de faire le meilleur podcast possible
ouais.
et les meilleures interviews possibles.
Et
quoi.
C'est ce qui rend le truc intéressant.
Et de tirer un peu les vers du nez
ouais.
des gens pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent, tu vois.
Mmh.
Mais bon, je fais ça aussi avec des pères. Hein. Enfin,
ouais.
Si t'écoutes
ouais,
un peu l'histoire.
J'espère bien.
Non, oui, c'est que les meufs que je cuisine. Les mecs, sinon, bah, je suis juste, ouais, c'est sûr, on est au courant, toi et moi. Allez, vas-y, viens, on va boire une pinte. N'importe quoi. Bon, en tout cas, Justine, t'as l'air d'avoir une histoire de daronne que t'avais envie de venir raconter. Mm-hmm. Alors, ce qui est marrant, justement, c'est que tu m'avais proposé de venir avec ton chéri.
L'idée, c'était pas forcément de venir avec mon chéri, parce que quand je t'ai envoyé le mail, j'en avais pas forcément parlé.
Ok.
Enfin, même pas du tout parlé.
Ouais.
Mais c'est juste que je peux difficilement parler de mon histoire de daronne sans parler de lui.
Oui.
Donc, effectivement, dans le mail que je t'ai envoyé, je parle pour nous.
Oui.
Voilà.
Okay.
Après, le truc de venir, c'est pas trop son délire.
Ah ouais.
Parce que c'est un mec.
Non, mais ça, c'est pas. Ça n'est pas une explication entendable, tu vois.
Bon, alors, je retire ce que j'ai dit.
Non, c'est peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il a pas envie, peut-être qu'il est pudique.
C'est pas du tout son. C'est pas son délire, en fait, juste.
De venir parler.
De venir parler et.
C'est vraiment. Ouais. Les mecs, nous, on n'aime pas parler. Oui,
voilà.
Bien sûr. Ouais.
Et puis voilà, c'est plus que fini.
Oui, oui. Non, mais oui, c'est finalement tu voulais faire peut-être un épisode aussi avec ton chéri pour avoir son point de vue. Est-ce que vous en avez c'est des choses dont vous avez déjà parlé ou alors tu fais partie de ces nanas qui veulent m'envoyer leur mec pour écouter l'épisode d'Histoire de Daron parce que c'est une discussion qu'elles n'ont jamais eue.
Non, pas du tout parce que après il aurait pu me surprendre. Hein,
ouais.
Mais je pense pas qu'il se livrerait beaucoup. À moins que tu sois vraiment très, très, très
fort. Je suis très fort.
Mais non, pas du tout.
Franchement, ton gars, je crois que je le prends, je lui malaxe un peu le crâne, là, tu vois, je finis par lui faire des petites papouilles et tout, et puis à la fin, il finit par me raconter.
On va l'appeler, alors.
T'aimerais bien savoir. C'était ça, ma question. T'aimerais bien savoir, en fait.
Bon, Non, vraiment, tel qu'il est, je pense qu'il n'a pas...
Okay.
Tu vois, il n'a pas plus de... Justement, je pense qu'on en parlera. Il n'y a pas... C'est pas des choses qu'il fait, de discuter des choses en profondeur,
ouais.
de tout ce qui est un peu réflexion sur la vie, tout ça, c'est pas son... Voilà.
Moi, je crois que c'est parce qu'il y a... Je ne sais pas si c'est le cas de ton mec, tu vois, mais je crois qu'il y a beaucoup de mecs qui ont peur, en fait, d'ouvrir cette boîte-là et de voir toutes les émotions que ça a fait. Et... Tu vas raconter ton histoire.
Mmh.
Et en fait, son histoire de daron aussi, à lui, elle a dû être dure.
Mmh.
Et c'est peut-être un truc où il fait, bon alors ça, on va bien s'asseoir dessus, là, et puis on va plus jamais faire en sorte. Hop, voilà, c'était très chiant. Alors que toi, t'es là, moi, je veux en parler pour faire en sorte d'exorciser
ouais.
le truc.
Exactement.
De venir peut-être le partager aussi aux autres femmes, etc. quoi. Et oui, mais c'est mon travail quotidien pour faire en sorte que les gars finissent par s'ouvrir. Et surtout qu'ils comprennent que c'est pas sale et que c'est pas dangereux et que ça fait du bien, en fait, tu vois. C'est vraiment ça, le vrai truc.
Ouais.
Si tu nous écoutes, je sais pas son prénom.
Alexandre.
Alexandre, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu quand tu veux pour avoir un petit massage des lombaires par Fab Flo.
Je le pré-travaillerai encore avant.
Justine, quel âge tu as ?
J'ai 31 ans.
T'as 31 ans et ouais. T'as un fils donc ?
Oui.
Qui s'appelle Louis ?
Qui s'appelle Louis.
Et qui a ?
Qui a bientôt 22 mois.
Ok. Tu m'expliquais que ton histoire de daronne n'avait pas été spécialement funky jusque-là ?
Non, pas du tout, non.
Voilà, on peut dire ça.
Ouais.
D'où est venu ce désir de maternité, toi ?
Putain, la colle dès le départ.
C'est pas une colle.
Déjà, moi, c'est la dernière de 6 enfants.
Ok.
Mon père, il a 8 frères et sœurs, donc j'ai beaucoup de cousins. Et on est déjà, tu vois, dans une famille où il y a beaucoup d'enfants. Oui. Enfin, voilà. Ma mère s'est arrêtée de travailler pour ses enfants. Donc, avec un, tu vois, un modèle de vie un peu... t'es une femme un peu pour pas pour avoir des enfants, mais il y a quand même un peu ce truc là à l'ancienne.
Tu dois un peu pondre, quoi.
Ouais. Même si c'est moins vulgaire que ça, parce que je pense qu'il y a un réel amour derrière, tu vois. C'est pas juste le faire pour. Mais voilà. Donc.
Aujourd'hui, c'est moins vulgaire que ça. Je crois qu'il y a un siècle, ça l'était beaucoup moins. En fait, il y avait un peu un côté. Faut faire des mômes pour faire en sorte qu'ils aillent travailler.
Donc, si tu veux, moi, j'ai un modèle de vie où, quand j'étais petite, c'était tracé que je serais maman, machin. Et en fait, la question se posait pas. Adolescente, c'était revers de médaille. C'est-à-dire que je voulais pas en entendre parler. Parce que justement, j'avais pas envie d'être ce genre de femme. Okay. Je voulais être une femme dans le boulot à fond.
Ok. Je
savais encore pas ce que j'allais faire, mais dans le boulot à fond. Et je me disais, si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Ou au pire, j'en aurais sur le tard.
Ok. Tu voulais être. Il y avait un côté un peu de femme indépendante, c'est ça derrière ?
Il y avait complètement un côté de femme indépendante. Il y a aussi un autre côté. Donc, je suis malentendante, je te l'ai expliqué.
Ouais. Mais les gens ne le savent pas, pour le coup, tu me l'as dit.
Les gens ne savent pas, donc je suis malentendante. Voilà. Et en fait, je suis malentendante parce que j'ai une maladie dégénérative de l'oreille et qui évolue avec les montées d'hormones. Et donc, avec le risque, avec des grossesses, de perdre en audition.
Ok.
Donc, j'ai appris ça. Enfin, je vais peut-être le savoir avant, mais j'ai compris ça à l'adolescence. Et clairement, j'avais pas envie. J'avais pas envie de prendre ce risque-là et j'avais pas envie de prendre le risque de faire un enfant, que ça arrive et de lui en vouloir.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non mais évident.
Voilà. Donc à ce moment-là, c'était pas du tout mon délire. Et puis j'ai rencontré mon mec. Voilà, j'ai rencontré...
L'amour, finalement.
Voilà.
C'est ça qui t'a fait bifurquer totalement. Bah,
déjà parce que lui, c'était pas une question. Lui, il voulait être père.
Ah ouais.
Ouais, lui, il voulait être père. Et puis, assez vite, je me suis dit, oui, il faut qu'il soit père. C'est son truc, quoi. C'est son goal dans la vie, quoi.
Ok.
Tu vois ? Et je ne l'ai pas fait pour lui. Pas que pour lui.
J'allais te poser question, parce que
mais
je pose les questions
que...
chiantes, tu sais. T'as compris.
Mais forcément que quand t'es amoureux, quand tu vois l'autre, je me suis dit, c'est le père de mes enfants, non, mais de mon enfant en tout cas. Et donc, assez vite...
Mais attends, donc, tu dis ça comme si c'était évident, mais j'imagine pour toi qu'il y a un truc où, en fait, Parce que tu sais, j'essaie vraiment de comprendre. Ouais. Moi, avec ce podcast, j'essaie de comprendre la maternité.
Ouais.
D'où vient la maternité? Qu'est-ce qui te fait basculer dans la maternité? Tout comme, qu'est-ce qui te fait basculer dans la paternité, quoi, pour les mecs qui voulaient pas d'enfants. Tu veux dire qu'en fait, la rencontre de ce mec te fait remettre en question l'intégralité de tes plans que tu avais depuis l'adolescence?
Alors, remettre tout en question, non.
Non, mais en tout cas, tes plans par rapport à...
Bah, ça n'a pas fait tout remettre en question, parce que j'ai eu une petite vie de femme indépendante avant lui, déjà.
Ouais.
On ne s'est pas rencontrés très vieux, mais bon, j'ai...
T'avais quel âge?
C'est une bonne question. J'avais 25 ans, moi, ouais. Et lui, il en avait 30. Mais c'est juste que j'ai aussi compris que moi, j'en avais aussi envie... Et que on met des barrières pour des principes qui sont à l'inverse, tu vois, du principe de dire on est une femme, on devient une mère. Enfin, on est une femme pour être une mère.
Ouais.
Moi, je m'étais dit je vais être à l'inverse de ça, mais c'était un peu trop extrême. C'était de se dire non, je veux pas de ça, je veux pas de ce truc absolument être une mère. Machin,
finalement, tu rejetais peut-être un peu le modèle de ta mère.
Pense.
Alors qu'en fait, au final, tu t'es dit peut-être qu'il y a à apprendre.
Exactement.
Tout en restant moi-même. Quoi.
Tout à fait.
Ok.
Voilà.
D'accord, je comprends. Et l'amour, en plus.
Ouais,
quelle idée.
Bah, beaucoup d'amour, oui. Quand même.
Quelle idée, l'amour. Vraiment n'importe quoi. Ok, et en fait, ce que tu disais aussi qui m'a intéressé, c'est que tu m'as dit, en fait, le mec veut des enfants. Et en fait, c'est obligé que si je fais des enfants, c'est avec ce mec-là. C'est ça que tu voulais te dire?
Alors, oui.
Ok.
C'est ça. C'est que s'il devait y avoir un père pour mon enfant, ce serait lui.
Pour ton enfant.
Voilà. Et de me dire, de toute façon, dans l'idée, possiblement, je vais passer ma vie avec lui. Lui, il veut des enfants. Voilà. Enfin, c'est...
Ok.
Voilà.
Ok. Bah, ok. C'est hyper intéressant. Tu vois, vraiment, je trouve la précision. D'expliquer ça, comment ça se bascule. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors, à un moment donné?
Il se passe qu'on passe quand même un peu à l'inverse du truc, de dire on va suivre un peu le schéma classique, de se dire on se marie, on achète un appart et on fera un enfant après. On avait prévu de se marier en juin 2020. On s'est pas marié en juin 2020.
Ouais, oui.
Voilà, on a une espèce de petite pandémie qui nous a contraints à annuler le mariage. Et je pense que c'est là où, nous, ça faisait 2 ans quand même qu'on préparait le mariage. Et où on s'est dit, merde, en fait, désolé, je dis gros mots. Hein.
Tu as le droit. Moi, je dis merde tout le temps dans mon podcast. Je dis putain en plus. Horrible.
On essaye de contrôler des choses, on essaye de prévoir les choses. On voit que ça marche pas. Clairement, on voulait acheter. Mon mec était chef cuisinier, donc autant te dire qu'avec le Covid, il a pas pu bosser pendant un moment. Donc c'était mort pour acheter. On s'est dit, on arrête d'attendre et on y va, quoi.
Ok.
Voilà.
Et tu veux dire que quand tu dis il était chef cuisinier, il n'est plus chef cuisinier aujourd'hui?
Si, toujours.
Ouais. J'allais dire, est-ce qu'il s'est reconverti entre temps? Il s'est dit, ok,
non.
Je vais devenir ébéniste.
Pas du tout. Non. Ce serait bête qu'il change.
Ok, donc l'idée un peu de se dire, ok, on ne peut pas tout contrôler. En fait, on voulait faire un peu le truc selon un plan bien établi.
Ouais.
Que finalement, regarde, il y a une pandémie qui nous tombe dessus. Ok, vas-y, viens, on fait autre chose. On décide de faire un enfant.
C'est ça.
Ok. Vous avez eu cette discussion-là, tous les deux, vraiment, aussi clairement que ça?
Alors, aussi clairement que ça, non. Moi, je pense que c'était comme ça dans ma tête. Mais tu veux, lui, il est très, très factuel.
OK.
Donc, c'était, maintenant, on passe à quel projet, quoi. Et voilà.
OK.
Donc, assez vite, on est passé, on a sauté un peu les plans. Et on est passé à l'étape d'après.
OK.
Voilà.
Très bien. Comment tu te souviens le jour où t'apprends que t'es enceinte?
Ouais, je me souviens bien. Je me souviens bien parce que c'était le 19 mai 2021, c'était le jour de la réouverture des restaurants, mais juste des terrasses, il y avait encore le couvre-feu. Donc c'était le jour où, un peu dans l'esprit de tout le monde, c'était ce soir, on sort en terrasse
et
on picole, quoi. Et accessoirement, mon mec reprenait le travail. Et il ne bossait pas depuis un moment.
Rappelons qu'on est à Lyon. La ville de la bonne bouffe, hein, quand
voilà,
même.
Voilà, tout à fait. Exactement. Donc, ça faisait un an qu'on essayait. ça commençait à être long, très long, enfin, surtout pour moi. Et moi, j'ai fait des tests pendant toute cette année parce que j'ai des cycles hyper anarchiques.
Anarchique.
Voilà, merci.
On l'avait.
et donc, j'étais tout le temps en train de faire des tests parce que je ne savais pas, en fait...
Si tu étais enceinte ou pas.
Voilà, si j'étais censée avoir mes règles, quand, comment. Donc, sauf que là, le matin, je me lève, j'ai eu mal au sein toute la nuit.
Un indice sur votre écran.
Voilà. Et j'ai fait un test de grossesse au bureau. Un test de grossesse au bureau entre midi et deux avec une collègue. Enfin, avec une collègue.
J'ai compris.
Ta collègue avec la complicité d'une collègue.
Ta collègue n'était pas en train de te tenir le truc pendant que tu pissais dessus.
Non, par contre, elle m'attendait derrière la porte et je lui ai tendu le test en mode, c'est bien positif. Parce qu'à force de voir des négatifs tout le temps, et en plus, j'ai vu des négatifs pendant des années, parce que comme j'ai toujours eu des cycles voilà.
Ah, tu faisais partie de ces femmes qui...
Qui faisaient des tests tout le temps, mais dans l'espoir qu'ils soient négatifs.
Oui, j'ai compris.
Voilà. Pendant l'essai bébé, j'ai fait des tests en espérant qu'ils soient positifs, c'était négatif. Donc là, c'est du mal un peu à y croire, mais bon, on n'est pas bête, tu comprends.
J'avais des salariés chez Mademoiselle qui me racontaient qu'elles faisaient ça.
Ouais.
Elles faisaient des tests en permanence par peur de tomber enceinte.
Ouais.
Waouh, et tu vois, ça fait typiquement partie des trucs en tant que
mec. Bah ouais, mais parce que quand t'as tes cycles qui vont bien, tu sais quand est-ce que t'as tes règles et tu sais que quand t'as un retard. Enfin voilà.
Ouais.
Clairement, quand t'es pas le cas,
Waouh.
C'est toujours, c'est très souvent une interrogation, okay. En tout cas quand t'es en couple et que, bon.
Cette année-là, là où tu dis que vous avez essayé et que ça commence à devenir un peu long pour toi, comment tu la vis, toi? Tu pensais que ça irait plus vite, c'est ça?
Je pense pas que je me disais que ça allait être plus rapide que ça, mais par contre quand on est en plein dedans, quand on est une femme et que, alors je vais être très explicite, mais qu'on regarde le fond de sa culotte tous les mois, en se demandant si c'est le moment ou pas, c'est très très long. C'est très très long, ouais. Surtout quand t'es dans une période où t'as plus d'autres projets parce que tout a été arrêté. Et où là, t'as envie que ça fonctionne. Et puis autant avant de rencontrer mon mec, j'en avais pas terriblement envie. Autant à ce moment-là, c'était une évidence.
Ouais. Je comprends donc, pourquoi tu voulais m'engueuler quand je parlais de quand je posais des questions à Elia. C'est ça qui. Mais parce que c'est à un moment donné, c'est la vie. Il faut laisser aussi la vie faire, quoi. Tu vois.
Je suis complètement d'accord avec toi. C'est justement pour ça que je dis. Nous, les femmes, on a quand même la responsabilité de cette grossesse-là et de savoir si on est enceinte ou pas.
Ça, je suis d'accord. Mais en fait, pour moi, il y a un peu l'aspect, tu vois, ok, c'est long et ça devient long, tu vois, il y a un côté...
Ouais, mais au-delà du fait que ce soit long, t'as quand même, tous les mois, un espèce de truc où tu te dis, il faut quand même que je vérifie, il faut quand même que je sois sûre, parce que si je suis enceinte, il faut que je le sache, quoi.
Enfin, oui.
J'arrête de picoler, tout ça, enfin bon.
Ouais.
Voilà.
Donc maintenant, tu sauras que tu as les seins qui te font mal. C'est un bon indice. Ça, c'est pas le cas pour toutes les femmes, si j'avais compris, mais c'est plutôt un truc qui marche bien en général. Quoi. Ok. Donc, hop, tu vas voir ton gars.
Eh ben,
parce que lui, il est en train de bosser. Donc,
il est en train de bosser. Je vais faire ma prise de sang. Je retourne au boulot. Je sors du boulot. Je vais au Monop chercher une petite paire de chaussons.
Ah oui, le classique.
Voilà, classique. une petite valisette de gamin, voilà.
Le classico.
Et puis, ouais, t'as pas trop le temps. T'as un an pour réfléchir, mais tu penses pas à ça. Et puis, voilà, mon mec rentre juste avant le couvre-feu et on pleure et on est content.
C'est cool.
Voilà.
Comment se passe cette grossesse?
Compliqué. On a déménagé déjà 3 jours après avoir su que j'étais enceinte.
Ah oui.
On emménage dans un appart qui vient d'être peint. Le parquet vient d'être verni. Moi, j'ai des nausées comme c'est pas permis. Les odeurs, je les supporte pas, donc je suis pas bien dans cet appart. Donc déjà, premier trimestre.
Dur.
Dur. Un gastro qui dure 3 mois, quoi. Voilà.
Cool. Cool.
Voilà. Et puis, écho du premier trimestre. Écho un peu attendu parce que premier trimestre, moi déjà je me considère malade. Et puis...
Tu te considères malade parce que...
Bah parce que t'as quand même le truc du premier trimestre où tu te dis, je vais pas me projeter trop vite parce que tu sais que c'est fragile, parce que tu sais qu'il faut quand même attendre la fin du premier trimestre pour garantir que...
Ouais.
Que ça fonctionne bien, quoi.
Et le fait que tu sois malade, tu considères que t'es malade?
Enfin, ouais.
Le fait que
t'aies des nausées, tu considères que t'es malade? À ce moment-là, ma vie, c'est que je suis malade du matin au soir et je projette pas forcément. Enfin, voilà, je suis malade.
Ouais.
J'ai la nausée du matin au soir. Bon.
Moi, je n'imagine
puis, je
pas.
Sais que...
3 mois de gastro, je me dis.
Voilà.
C'est pareil, c'est typiquement le genre de truc où je me dis, c'est très bien, je
voilà.
suis très bien ma place et très bien la vôtre.
Ouais,
allez,
bah...
prends envie d'être à votre place. Salut les
et
meufs.
Et puis la gastro, sans vomir, jamais.
Ah, parce que tu vomis pas?
Non.
Non, t'as que des nausées, c'est ça?
T'as que des nausées, tu peux pas. Ah non, c'est...
Ok, cool.
Donc cool, et puis donc écho du premier trimestre attendu, parce que c'est un peu la limite où tu te dis, c'est bon, je vais me projeter.
Mm.
Donc on arrive, on voit qu'il est là, on entend le cœur battre, et là c'est bon, quoi. Là, moi, je suis maman. Je vois qu'il est là, il s'est accroché, ça ressemble à un bébé, le cœur bat, enfin. Donc l'écho se passe et puis à la fin de l'écho, la sage-femme un petit blanc quand même, et la sage-femme qui nous dit bon, tout va bien, mais clarté nucale épaisse. Donc la nuque trop épaisse par rapport aux normes. Moi, ça tilte tout de suite. Moi, je pense à la trisomie, enfin voilà. Mon mec, ça tilte pas du tout quand elle dit ça. Donc elle enchaîne tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, on te dit, il va falloir aller consulter dans un service de diagnostic anténatal, à l'hôpital, enfin voilà.
Mais tu rentres dans un parcours, quoi.
Exactement, direct. Et là, elle commence à parler de trisomie, ça peut être un signe de trisomie, de maladie cardiaque. Et là, mon mec, je pense qu'il...
Il comprend.
Il comprend. Et là, on s'effondre. La sage-femme doit nous appeler le lendemain pour savoir vers quel hôpital elle nous renvoie. Enfin, voilà. Et puis, nous, on rentre à pied, main dans la main. On parle pas. On pleure. Voilà. Et rentrer à la maison, je m'effondre dans les bras de mon mec. Et lui me dit, quoi qu'il ait, cet enfant, on va y arriver, on va tenir le coup. Et en fait, moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Moi, c'est si à ce moment-là, s'il y a quelque chose de grave ou en tout cas d'important, comme je le pense à ce moment-là, une trisomie, ou, pour moi, si on ne garde pas. Sauf que lui, tellement peu informé, pour lui, l'IMG, c'est quelque chose qu'il connaît pas. Donc pour lui, à ce moment-là, de toute façon, il n'y a pas de possibilité d'arrêter la grossesse. Donc on est déjà à ce moment-là, si tu veux, on n'est pas dans le même, on n'est pas triste pour la même chose.
Écoutez, histoire de daron, les mecs, si je puis me permettre, hein, parce que bon,
voilà. Et là, déjà il y a un décalage.
Et qu'est-ce qui se passe entre vous alors à ce moment-là, en termes de décalage?
Moi, tout de suite, quand il me dit ça, je dis non. Il dit pour moi, encore une fois à ce moment-là, parce qu'il y a du chemin de fait depuis, mais pour moi, c'était, je lui ai dit non, c'est niette.
Okay.
Voilà, pas envisageable.
Et lui, il dit quoi?
Lui, il me suit, quoi qu'il arrive.
Ouais, ok. Voilà. Il n'est quand même pas en mode, non, mais on va garder cet enfant,
non,
comme ça. Okay.
Non, il me suit, et puis je pense que, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est le cas depuis le début de notre histoire avec notre fils, c'est que mon mec, il est au-dessus de tout ça.
Ça veut dire
c'est,
quoi?
C'est que c'est complètement abstrait pour lui. Tu vois? Et je pense qu'il n'imaginait pas du tout ce que pouvait être la vie d'un enfant porteur de trisomie ou autre. Hein. Voilà. Pour lui, comme je l'ai dit, c'est très...
Voilà. Okay.
Et donc, 3 jours après, on se retrouve en service de diagnostic anténatal à Lyon Sud. Et on prend un cours de science, quoi. On prend un cours de science, on nous explique quelles sont les possibilités et on nous parle assez vite d'amniosynthèse.
Qu'est-ce que c'est que l'amniosynthèse?
Je ne suis pas scientifique pour un sou.
Non, mais de ce que tu as compris.
En pratique, c'est une piqûre dans le ventre, grosse aiguille,
oui.
qui vient de ponctionner du liquide amniotique. Et l'idée, c'est de regarder de prélever ce liquide amniotique pour faire le karyotype du bébé et faire une première lecture un peu globale de la génétique de cet enfant.
Ok.
Voilà. C'était clair.
Oui, très. Ouais. Franchement, je suis vide ouf.
Sauf que il faut attendre 3 semaines que la grossesse avance et que j'ai un peu plus de liquide. Et l'amniosynthèse est programmée pour le 29 juillet, qui est la date de notre rencontre avec mon chéri.
Incroyable.
Voilà.
Rien n'arrive par hasard.
Donc là, déjà, Et donc, il se passe 3 semaines.
C'est long, 3 semaines
ouais,
sans savoir.
C'est long, et puis surtout que t'es complètement dans l'ambivalence de cet écho, où t'as réalisé que c'est bon pour toi, c'était maman. Tu vois, enfin, je parle pour moi, et je pense que pour mon mec, c'était pareil.
Oui.
Et en même temps, de ce truc de se dire, on se projette, enfin, moi en tout cas, d'essayer de ne pas me projeter, ne pas me projeter du tout, parce qu'on ne savait pas quoi, ce qui pouvait ressortir. Mmh. Voilà.
C'est d'autant plus dur, j'imagine, que c'est un peu le truc que vous aviez envie de faire, de vous projeter dans un projet et donc d'avoir envie de vous projeter.
Tout à fait.
Et parfois la vie.
Voilà.
Elle te fait des beaux petits cadeaux.
Exactement.
Tu veux te projeter, tiens, tu vas pas y arriver. Pam.
Non, t'as pas compris.
Apprends.
On arrête de se projeter là depuis 2 ans. Ouais.
Ok. Comment ça se passe alors,
Comment ça se passe, la myosynthèse? J'y vais sans mon mec. J'y vais avec une amie très proche. J'avais pas envie, moi, d'y aller avec lui.
Ok.
Parce que j'avais pas envie qu'on soit tous les deux avec ça, en mode triste, à y aller main dans la main. J'avais pas en plus envie qu'on ait ce souvenir-là du 29 juillet, quoi. Hein.
Ah,
et puis, on l'a très vite compris aussi, c'est qu'il allait en avoir des rendez-vous.
Ouais.
Et qu'il fallait quand même garder un peu de dispo pour la suite aussi. Donc, ça se passe. Alors, j'arrive ce top avec des personnes hyper bienveillantes, donc ça se passe. Et on a un premier appel. En fait, les résultats sont en deux étapes. Tu as des premiers résultats que tu as très vite qui te confirment ou pas le fait que ton enfant a ou pas les 3 trisomies les plus connues. Et tu as la possibilité d'avoir confirmation du sexe de ton enfant.
Ok.
Donc, le lendemain, la généticienne m'appelle et première des choses qu'elle me dit, c'est que c'est négatif pour les fameuses 3 trisomies.
Ok.
Donc là, on souffle et donc elle m'annonce que mon enfant est un garçon. Et là, je m'esclave. Je m'esclave plus que pour ce qu'elle venait de m'annoncer avant. Moi, j'étais persuadée d'attendre une fille.
Ah bon ?
Persuadée. Pourquoi Si, pourquoi ? Parce que j'avais pas envie d'avoir une fille.
T'avais pas envie d'avoir un garçon?
J'avais pas envie d'avoir une fille.
Ah, ok.
J'avais pas envie d'avoir une fille. Que j'ai une copine qui m'a tiré les cartes, qui m'a dit c'est une fille. J'ai une cousine qui m'a fait le pendule, qui m'a dit c'est une fille.
Non, mais faut arrêter voilà. Toutes ces conneries-là.
Et la fameuse écho, on a quand même demandé à la fin est-ce que vous avez un pronostic? Alors elle nous a dit que c'était pas fiable. Mais elle nous dit pour moi c'est une fille. Moi,
ok.
Allez, prépare-toi, Justine. Ça va être une fille.
Pourquoi tu voulais pas avoir une fille? Tu peux pas choisir, c'est pareil.
Non, tu peux pas choisir. C'est bien pour ça que je pense que je m'étais un peu mis Marcel en tête en disant il faut que tu sois prête. J'avais pas envie parce que j'avais peur de transposer beaucoup de choses chez une fille.
Tu t'attendais à cette réponse un peu.
Un peu.
À ta tête. Tu t'attendais à cette réponse.
Et donc, transposer voilà. Quoi?
Comment?
Transposer quoi?
Des angoisses, des trucs qui feraient écho à la relation que j'avais avec ma mère, enfin voilà, des trucs, voilà. Et puis j'avais très envie d'avoir un garçon.
Ok.
Évidemment,
d'autant
tu
plus,
choisis pas.
D'autant plus que tu n'avais pas envie d'avoir une fille.
Voilà, bah oui, forcément. Donc tu veux, quand la généticienne me dit ça, mais je saute au plafond, okay. Je pense qu'elle a dû se dire, mais je viens de lui dire, dire qu'on échappe aux 3 trisomies, c'était un peu long. Enfin,
c'était un peu l'enjeu.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Et bon. Donc moi j'appelle mon mec dans la foulée, je pense que je lui dis d'abord c'est un garçon.
Incroyable.
Ouais, pour dire je pense que à partir de ce moment-là, c'est un peu sans trop que je me l'avoue après, ça a un peu débloqué un truc c'est mon petit gars quoi, tu vois.
C'est-à-dire ?
Bah, je me projetais pas avec une fille, donc là, je me projetais à fond, quoi.
Ok.
Tu vois ? Enfin, je me projetais à fond. Le à fond est à modérer parce que par la suite, je me suis un peu moins projetée, mais voilà, ça a débloqué quand même un truc. Et après, il a fallu attendre un mois, un gros mois, pour avoir la fin des résultats. Et entre-temps, bah, on a fait écho cardiaque, qui n'a rien révélé. Et donc, la finalité des résultats, c'est qu'ils ont découvert un variant génétique, donc un morceau du chromosome 4 en plus, mais qu'ils n'avaient pas d'infos rattachées à ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais été recensé. En fait, on commence à comprendre, alors moi un peu naïve, peut-être un peu jeune, pensant que la génétique donnait des réponses à tout. Et en fait, là, on commence à comprendre qu'en fait, la génétique et les fichiers génétiques, c'est assez récent et qu'il n'y a pas grand-chose dedans.
Ouais.
Et que, donc voilà, donc on nous dit, il y a un variant génétique, on ne sait pas ce que c'est, il faut qu'on fasse une prise de sang chez les parents pour savoir si l'un des deux a transmis ou si c'est de nouveau, comme on dit. Donc si c'est... Et assez vite, avec la généticienne que j'ai au téléphone, et même moi, tout de suite, je me dis, c'est peut-être ma surdité. Parce que c'est génétique, mes sœurs sont également malentendantes, j'ai des tantes, on sait que c'est génétique, mais on n'a jamais su quelle est l'origine.
Okay.
Donc à ce moment-là, je me dis, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être chez moi, et ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce que chez moi, ça ne touche que des femmes. Donc je me dis, au pire, il est porteur, et je me dis, bon, bah, si c'est ça, voilà.
On s'en sort bien.
On s'en sort bien. Je connais. Et puis, de toute façon, a priori, il ne serait que porteur. Donc, voilà. Sauf que non, on n'était pas porteur, ni lui, ni moi. Donc, là commence un peu le gros point d'interrogation. On rencontre une autre généticienne. Donc, on a été suivi à Lyon Sud. On rencontre une généticienne à Hôpital Femme Mère Enfant. Qui, lors du rendez-vous, est pas des plus négatives, c'est-à-dire qu'elle nous dit effectivement, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire, mais elle nous dit en général, les gros trucs méchants, pas sympas, c'est quand il y a des parties en moins. Là, elle me dit, il y a du plus, mais bon, on ne sait pas.
Oui.
Bon, mais enfin, en tout cas, moi, je la sentais plutôt positive. Tu vois. Et puis, par contre, grossesse hyper suivie, écho régulièrement. Et voilà, la grossesse se passe. La seule autre anomalie, c'est que c'était un petit qui était macrodome, donc très gros, qui avait un périmètre crânien assez important. Je pense que hors contexte, ça ne nous aurait pas inquiété parce que mon mari et moi, on est de bonne corpulence depuis qu'on est petit, on a une grosse tête. Donc,
vous avez des grosses têtes.
Voilà, non, mais quand tu regardes, finalement, tu vas regarder après dans ton carnet de santé. Je pense que hors contexte, ça nous aurait pas du tout interpellé, mais même les médecins. Sauf que là, tout est prétexte à.
Bien sûr.
On sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Donc la grossesse se passe comme ça, avec un gros point d'interrogation, où moi j'essaye de pas me projeter. Je sais pas en fait. Il y a encore des examens à venir. Je me dis, on ne sait pas si on ne va pas encore apprendre des choses. L'IMG est possible jusqu'à la fin. Donc voilà.
Tu marches un peu sur des œufs, quoi.
On marche complètement sur des œufs.
On marche. Ton mec aussi, pour le coup, il est venu dans ta team.
Oh, je pense qu'il était inquiet, mais beaucoup moins que moi. Et je pense que encore une fois, je pense qu'il voilà.
Il est dans l'espace.
Exactement ça. Il plane complètement, mais il est comme ça.
Okay.
Donc je pense que ça le dépassait. Je pense qu'il n'était pas du tout aussi inquiet que moi.
T'avais pas envie de soutien, sur la planète Terre.
Pour le coup, à cette période-là, je peux pas dire qu'il a pas été soutenant, tu vois, parce qu'on était tous les deux et que malgré tout, il comprenait ma inquiétude bon.
Ok.
Voilà.
Et ça te fait pas bizarre d'être toute seule à flipper?
Ouais, je ne veux pas te dire qu'il n'a pas flippé du tout non plus.
Non, bien sûr.
Donc, on parlait quand même des inquiétudes, mais à ce moment-là, le décalage ne me choquait pas autant.
Ok, d'accord.
Donc, voilà. Et en fait, Le truc un peu qu'on attendait, c'est qu'il y avait une IRM qui était prévue à 7 mois et demi de grossesse. Et moi, j'attendais cette IRM pour me dire, bah, ce sera le truc qui nous dira s'il n'y a rien, c'est que c'est bon. Sauf que cette IRM a eu lieu. Effectivement, ils n'ont rien vu. Sauf qu'en fait, ce n'était pas bon. Parce que j'avais toujours pas de réponse.
Ah.
Tu vois. C'est que...
C'est-à-dire qu'un non, par rapport à l'IRM, ne veut pas dire que tout va bien. C'est
exactement.
Ça que tu veux dire. Ok.
Et en fait, là, ça a été, en tout cas pour moi, le gros coup dur.
Parce que t'attendais quoi, en fait?
Je crois qu'en fait, j'aurais préféré...
Oui. J'aurais préféré qu'il trouve un truc.
Pas qu'il trouve un truc en plus, mais qu'il trouve quelque chose qui explique,
oui.
Qui expliquerait ce qu'il a, s'il avait quelque chose. Parce qu'encore une fois, des fois, on fait pas tous nos karyotypes. Hein. Ça se trouve, on a tous des trucs de travers
sûr.
Et on ne sait pas. Hein. Mais...
Je dois avoir deux, trois trucs de travers, moi, j'en suis sûr. C'est sûr.
mais ouais, je pense que j'avais besoin d'une réponse.
Ouais.
Et puis je pense que j'avais un espèce de pressentiment de me dire qu'il y avait quelque chose.
Mmh.
Voilà.
Ok. Comment se passe l'accouchement? Tu t'en viens à l'accouchement ou pas?
Eh ben ouais, on en vient à l'accouchement.
Mois,
déjà, tu vois, il y a eu des jours juste avant l'accouchement.
Mmh.
Déjà, moi, j'ai été déclenchée un mois avant terme, parce que gros bébé.
Mmh.
Et donc j'ai été déclenchée le 30 décembre. Donc tu veux, avant ça, c'est la période de Noël, c'est
ouais.
Et c'est la seule période où vraiment on savait que de toute façon c'est bon, on allait aller au bout, que bébé allait être là, et l'esprit était vachement plus léger. C'est la seule période
de toute la grossesse.
Et c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que on était bien, quoi. Et donc, je suis déclenchée, ça met 24 heures pour se faire. Ça a été plutôt, pas rapide, mais on m'annonçait tellement un délai. Enfin, on m'avait dit, prenez de quoi lire et de quoi vous occuper pendant deux jours, quoi.
Ouais.
J'ai pas trop souffert. Ça a été plutôt un accouchement doux, j'ai été super bien accompagnée. Et donc, le 31 décembre.
Incroyable.
Incroyable. Notre petit bounet, et donc on me le pose sur le ventre, on pleure, on est super content, enfin
bah oui.
Ému, tu vois. Et on me le pose, je le vois pas parce qu'on, ben voilà,
bah
il,
oui.
Il est dos à moi. La puère, elle l'enlève tout de suite pour lui faire une micro toilette. Elle me dit, commencez à vous déshabiller pour le pot à peau. Hop, je suis au taquet. Elle s'approche de moi pour le poser, et là elle me dit, ça va pas, faut qu'on sorte. Donc, ils sortent avec Louis, donc notre fils, et donc mon mari également.
Qui suit? Là, tu te retrouves?
Et je me retrouve toute seule, avec la sage-femme qui va s'occuper de moi. Mais je crois qu'à ce moment-là, je suis hyper frustrée parce que je voulais rencontrer mon fils, voilà, et parce qu'il me manque déjà. Mais je crois que je ne suis pas si inquiète que ça. Tu vois, je suis un peu dans un épisode de Baby Boom. Et je sais,
ouais, déjà, tu as de l'endorphine plein la gueule, non?
Voilà, et puis...
Tu as la drogue gratuite, là.
Ouais, et j'ai ce truc de me dire, ça va être comme dans Baby Boom. Là, tu as la musique un peu, tu vois, tragique.
Ah, Baby Boom, l'émission, là.
Exactement.
Que je n'ai jamais regardé. Hein.
Ouais, bref. Mais tu vois, dans ma tête, c'est ouais, bon, il y a un petit retard à l'allumage, ils vont le désencombrer un peu, et ben, bon, ils vont revenir,
oui.
musique entraînante, tout va bien, quoi.
Vive les endorphines, vraiment,
voilà.
Vive l'endorphine.
Vraiment, à ce moment-là, je suis hyper frustrée, par contre.
Ouais.
Je veux voir mon fils, que je ne l'ai pas vu, en fait. Donc, j'envoie un texto à mon mec en me disant, envoie-moi une photo, je veux savoir à quoi ressemble mon fils, quoi. Tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, et lui et moi, on était à mille lieues de tout ce qui avait été pendant la grossesse. C'est-à-dire que c'était complètement occulté.
Ouais.
Donc, à ce moment-là, je ne pense pas du tout...
Que ça puisse avoir un lien.
Ouais, okay. Vraiment pas. Pour moi, toi, un peu trop, il a avalé un peu trop de liquide, enfin bon... On me recoue, machin, et ça commence à être un peu long. Je reçois une photo, et la première photo de mon fils, donc la première fois que je vois le visage de mon fils, il est la tête dans un gros ballon. Et en fait, la première chose que tu fais, qu'il est en détresse respiratoire, en fait. Donc c'est pour l'aider à respirer, donc je reçois une photo de mon fils magnifique, de la tête dans un ballon. Et je souris parce que cette photo, je la trouve sublime. Et en même temps, elle est un peu... quand tu y penses, elle est un peu...
Elle est flippante. Hein.
Elle est un peu flippante, ouais.
Et, ça veut dire qu'il a du mal à respirer, quoi.
Ouais. Ouais, mais je crois que je comprends, enfin, je ne réalise pas encore à ce moment-là. J'ai accouché dans un hôpital de niveau 1. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas du tout de...
Le matériel
voilà.
Qui pouvait...
Ouais. Exactement. Donc, j'ai la pédiatre qui vient me voir et qui me dit on n'arrive pas à la stabiliser, donc on va appeler le SAMU. Et là, je commence un peu à être inquiète, mais surtout à me dire, je comprends qu'on va être séparés. Et à me dire, je m'engueule parce que pendant tout le suivi à Lyon Sud, on m'a quand même dit, si vous voulez vous inscrire ici, même si c'est après délai, vous pouvez. Et moi, je suis accrochée à ma petite maternité, tu vois. Et je m'étais dit, mais non. En fait, je n'ai jamais projeté d'urgence vitale chez mon fils.
Malgré tout
ouais,
le parcours.
Parce que pour moi, vraiment, je projetais un handicap, quelque chose qu'on découvrirait avec son évolution. Vraiment, jamais je n'ai imaginé, mais pas une seule seconde, j'ai imaginé l'urgence vitale.
Ok.
Donc à ce moment-là, je m'en veux terriblement. On attend le SAMU. Je peux enfin sortir sur mon fauteuil à roulettes, là, voir mon fils. Enfin, je le vois de loin parce que t'as toute l'équipe du SAMU qui est affairée autour de lui. Qui essaye tant bien mal de le stabiliser. Le médecin vient me voir en me disant « Bon, ça arrive, on va le transférer. Bon, je peux pas vous dire tout de suite où. » Là, je commence à me dire « Mais où est-ce qu'il va partir ?» Tu vois. On est à Lyon, hein, donc je devrais pas...
Oui.
Mais bon, moi, ma préoccupation à ce moment-là, c'est que je vais être séparée de lui. Je suis déjà séparée de lui, je vais être séparée de lui, quoi. C'est ça qui me...
Tu t'inquiètes moins pour sa santé que pour le fait que tu sois pas avec lui à ce moment-là.
Parce que je pense que je réalise pas, parce que pour moi, c'est comme je te dis. Et puis les médecins sont rassurants, quoi. Ouais. Tu vois, là, le médecin vient nous voir en disant ça arrive, signe de stress au démarrage, bon, il n'y a pas le nécessaire ici.
Ouais.
Tu vois, donc voilà.
Ce qui est cool aussi
oui.
De venir.
Et puis il nous dit, bon, il va aller en néonat, il y en a pour 3 jours, et puis basta, quoi. Donc voilà, ils vont pour le mettre dans la couveuse pour le transporter, et là, ils n'arrivent toujours pas à le stabiliser, donc ils doivent l'intuber. Donc là, le médecin vient me voir en me disant « Bon, c'est pas 3 jours, ça sera peut-être plutôt 7 jours. » Là, tu te dis... Mais, encore une fois, je crois que je suis encore pas très inquiète. Je pense que je réalise pas, et vraiment, ma préoccupation à ce moment-là, c'est qu'il va être tout seul, et je sais qu'on va être séparés, et voilà. Mon angoisse et ma tristesse à ce moment-là, c'est ça.
Il y a un peu de déni.
Certainement. Ouais, certainement. Et donc, il est transféré à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, finalement, pas si loin. Moi, ça me paraît très, très loin. J'ai accouché à Lyon 7. C'est à l'autre bout de la... Enfin, mais bon, ouais. C'est pas très loin. Et moi, je peux pas le rejoindre. Il n'y a pas de place pour moi. Donc moi, je regagne ma chambre et je dis à mon mec, je dis tu rentres, tu manges, tu fais une sieste et tu files le voir. Tu me laisses pas tout seul. On savait que de toute façon, il allait avoir 2-3 heures de battement le temps qu'il l'installe et tout. Donc, ouais. Et moi, je m'effondre et je dors. Voilà. 31 décembre.
Bonne année.
Bonne année, exactement. Tout à fait. Voilà.
Ok.
Et je vais le voir le lendemain. Je vais le voir le lendemain, donc j'ai les jambes flageolantes, enfin, j'ai accouché la veille, quoi. Enfin. Et là, je suis mon mec, parce qu'il y avait été, donc je le suis. Et ça fait un peu bizarre. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu toujours moi qui ai géré les rendez-vous, les machins. Et là, je suis mon mec, et puis moi, je m'attends à retrouver mon fils dans une chambre.
Ah ouais.
Tu vois. Et non.
Il est
dans une
couveuse, etc. Quoi.
Bah, il est dans une salle de réanimation néonatale où il y a, je pense, une vingtaine de berceaux. Donc c'est immense. Moi, et là, je réalise, je me dis, mais est-ce que je vais reconnaître mon enfant? Parce que je vois que des berceaux de partout. Je réalise encore pas à ce moment-là que, de toute façon, je l'aurais reconnu parce qu'on lui était un peu à part, mais. Mais là, ouais, c'est la claque dans la gueule. Déjà, t'es entouré de bébés qui vont pas bien, de parents qui vont pas bien, Et tu t'y comprends, mais tu comprends pas ce qui t'arrive.
Ah, tu redescends un peu sur terre.
Même pas si tu redescends sur terre, tellement c'est lunaire comme comme univers, comme enfin c'est un endroit c'est bruyant. C'est-à-dire que tous les petits sont scopés, donc ça sonne de partout, tout le temps. Et puis t'as aucune intimité alors que t'es dans un moment où, hyper intime en fait, que de tu viens d'accoucher, accessoirement tu viens d'accoucher, t'es recousu, t'es sur des tabourets, voilà. Et puis t'as envie de, enfin moi je m'étais projetée à rencontrer mon enfant, analyser chaque partie de ton corps, l'embrasser, voilà, tu vois le truc, la rencontre.
Et pourtant, tu savais bien qu'il fallait pas se projeter.
Ouais, mais en fait, c'est bien pour ça que je te disais je me disais, je suis quand même un peu projetée.
Bah oui, voilà. Bien sûr.
De toute façon, voilà. Et ouais, c'est le choc. Mmh. Et donc là, ouais, on retrouve Louis endormi, intubé. Et puis, on rencontre une pédiatre un peu furtivement. Qui nous dit, on sait pas. C'est quand même un peu anormal parce qu'une détresse respiratoire aussi violente chez un enfant à terme, parce que j'ai été déclenchée à 37 semaines, donc considérée à terme. Ah, voilà, et on sait pas trop. Et là commence un peu le truc. Elle me dit, est-ce que vous avez fait du diabète gestationnel? J'ai dit, j'ai fait le test, non, parce que ça peut être la cause de... Elle me dit, vous êtes sûre de ne pas passer à côté? Et là, tu commences à te creuser le truc, à te dire, est-ce que j'ai mangé comme il faut? Enfin, bref. Et puis là, on commence à nous parler un petit peu de son variant génétique, quand même. Mais voilà, la problématique, c'est la détresse respiratoire. Il va passer plusieurs jours intubé, on va l'extuber une première fois, il va pas arriver à se suffire des lunettes qu'on met pour impulser de l'oxygène, donc il va être réintubé. Il va avoir un œdème laryngé parce que avec l'intubation, extubation, on saura plus tard, mais il avait une trachée qui était rétrécie, donc voilà, enfin bref. Et puis là, commence...
Bienvenue au monde, hein,
voilà.
Vraiment.
Et là commence un peu le truc où tu commences les premiers jours à demander au médecin quand est-ce qu'il va sortir, quand est-ce qu'il va sortir. Très vite, tu comprends que ça n'a rien de poser la question parce qu'on n'en sait rien. Et en fait, tu comprends que c'est pas une course contre la montre, c'est un marathon. En fait, tu vas passer par les étapes, tu fais 3 pas en avant parce que on va l'extuber, on va mettre les lunettes d'oxygène, ça va bien fonctionner pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mince, ça marche pas, on redescend, on repasse à l'étape d'avant. C'est ça, en fait, la néonate, pour la plupart des enfants. Parce qu'en fait, Louis était entouré d'enfants prématurés.
Ah oui.
Et en fait, Louis était un peu le bébé un peu rond, un peu... complètement à part de...
L'un des seuls à terme, c'est ça?
Ouais. Et c'est là où tu réalises aussi qu'on ne sait pas trop ce qui se passe pour lui, que tu es un peu... Toi, les infirmières, les médecins savent pas trop comment s'y prendre avec lui parce que c'est pas un bébé habituel dans ce genre de service, qu'on sait pas ce qu'il a. Et quand même, il commence un peu à reprendre un peu et à mieux respirer, toujours avec de l'aide. Et donc, il passe, il était en réa, il passe aux soins intensifs. Et là, on rencontre une autre équipe de médecins qui nous dit, ce serait bien qu'on fasse un rendez-vous dans un bureau fermé. Parce qu'en fait, ça faisait 15 jours qu'on voyait les médecins un peu en coup de vent.
Ouais.
Et là, là, on commence à nous dire, il n'y a que des trucs un peu bizarres chez Louis. Cette espèce de détresse respiratoire qui est très similaire à ce que pourrait faire un préma alors qu'il ne l'est pas du tout. Et là, on nous dit... Et puis, il y a 2 choses qui nous interpellent. On trouve qu'il est hypotonique au niveau de la tête. Donc, il est mou au niveau du relevé de tête. Au niveau de l'abdomen, on sent que, y a un truc qui tourne pas rond. Bon, évidemment, on sait pas. Là, si tu veux, ils nous disent la priorité, c'est qu'au niveau respiratoire, on stabilise et après, on ira creuser ça. Voilà, tu t'effondres. Hein. Voilà, premier. Là, vraiment, on comprend qu'il y a un truc.
Mais en fait, tu vois, dans ton schéma, j'ai l'impression qu'en fait, dans ton parcours, j'ai l'impression qu'à plusieurs moments, tu t'es dit « Oh putain, c'est chaud !» Et après, « Ok, bah, finalement, ça va mieux. Et un peu jusqu'ici, tout va bien, quoi.
Ouais. »
Tu vois ?
Ouais, ouais, c'est un peu ça.
Et rebelote, là, ouais. Encore.
Ben, c'est un peu... Ça a été comme ça. Ouais,
okay.
C'est ça.
Parce que vous avez tendance à vous focaliser, c'est peut-être un truc que t'as toi et que ton mec a sur le positif et il faut que ça aille bien, tu vois.
Et c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que t'es dans un monde où t'es dans un service où se mêle la vie au plus frais du terme, parce que c'est des bébés, que toi t'es dans un truc, tu viens de ça, enfin voilà. Et en même temps, tu baignes un peu avec la mort, parce que t'es entouré d'enfants qui survivent pas forcément, et que on s'estime un peu chanceux. En tout cas, on a l'impression d'avoir de la chance, d'avoir un enfant qui est à terme. Et que nous, à ce moment-là, notre problématique, c'est pas qu'ils prennent du poids, c'est pas à ce moment-là. Et qu'on a l'impression, et je pense que beaucoup de monde autour de nous en service ont un peu l'impression que ça va pour lui. Tu vois, comme on dit de manière générale, quand t'es un peu t'es bien portant, c'est que ça va, tu vois.
Oui.
Et c'était un peu le ressenti pendant toute la période de néonate. C'est-à-dire que moi, je nous ai pas sentis du tout à notre place. Je bascule un peu sur ça parce que ça me fait penser à ce ressenti-là. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on avait l'impression d'être chanceux. Et
puis finalement, pas.
Bah, pas. Après, donc, des petites infos en plus. Louis s'est arrêté de déféquer, donc plus de caca. Donc là, tu deviens les parents qui arrivent le matin. Est-ce qu'il a fait caca ? Ah ben non, rien. Bon, premier jour, tu trouves ça un peu marrant de parler caca, pipi, bon. Deuxième jour, toujours rien. Troisième jour, donc il y a eu des suppos de nuit entre-temps, toujours rien. Troisième jour, l'infirmière nous dit, bon, j'ai fait un lavement ce matin, toujours rien qui sort. Ça commence un peu à devenir problématique. Nous, on dit, c'est quoi la suite ? Ben, c'est quoi la suite ? On espère que le lavement va fonctionner. Sinon, on le transfère à l'hôpital femme-mère-enfant parce qu'on n'a pas de service de chirurgie ici. Et là, tu comprends que chirurgie,
ça veut dire opération.
Voilà. Dans l'après-midi donc, de ce jour-là, moi, je passe un long moment en peau à peau avec Louis. C'est des moments qu'on a assez peu eu, nous, en néonat, alors que c'est des choses qui sont énormément mises en place. Mais Louis a été endormi, sédaté, intubé pendant très longtemps, donc bref. Donc, je l'ai contre moi, le ventre contre moi. Et Louis, qui était toujours endormi, qu'on n'a jamais vu... On n'a quasiment jamais entendu pleurer. Encore une fois, il était très souvent intubé, etc. Là, je le vois pas bien. Je le vois geindre, gémir. Et donc, j'essaye d'intercepter l'infirmière, mais si tu veux, caché par des paravents. L'infirmière, elle s'occupe de trois gamins en même temps. Donc, je l'intercepte. Mon mari, entre-temps, est allé en salle des parents se reposer. Et on le repose dans le berceau chauffant. Et là, on voit qu'il a un ventre énorme. Énorme. Donc là, c'est un peu le branle-bas de combat. T'as la radiologue qui vient pour faire une radio. On voit qu'effectivement, le côlon est hyper dilaté et que c'est bouché, quoi. On est au bord de l'occlusion.
Wow.
Et là, tu vois, je te disais que j'avais pas été très inquiète au début. Là, c'est le début de la grosse inquiétude. De dire, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc, il est... on attend le SAMU, c'est dimanche soir, comme par hasard. Donc, on attend longtemps le SAMU pour qu'il soit transféré à l'hôpital femme-mère-enfant. Et à l'hôpital femme-mère-enfant, ils nous disent, écoutez, on a réussi à stabiliser, revenez demain matin, dormez, revenez demain matin, et demain matin, il sera pris en charge avec l'équipe de jour pour la chirurgie. Et ça, enfin, voilà. Donc, nous, à 7h tapante, le lendemain, on y est. Avec le chamboulement quand même de changer d'hôpital, changer de service... Sachant que tu as pris très... Enfin, tu prends tes marques.
Ouais.
Enfin, voilà, c'est... Ça fait bizarre. Et donc, il part au bloc. Et on nous dit, on va regarder un peu ce qui se passe et on va lui mettre une ectomie. Donc, on va court-circuiter, si tu veux, le côlon.
Ouais.
Au niveau du ventre, et on va lui mettre une poche pour expulser les selles. Et on nous dit, rentrez chez vous, c'est 5 heures d'opération minimum, quoi. On rentre chez nous, une heure après, je crois, une heure et demie après, on nous appelle. Putain, qu'est-ce qui se passe ? On nous a parlé de 5 heures, tu vois.
Bah ouais.
Et donc, on nous dit, bah non, en fait, on a fait un ultime lavement avant l'opération, donc c'est sorti. On a pu faire des biopsies sur le côlon comme il était endormi. Et donc, pour le moment, on le laisse tranquille. Et puis, on attend les résultats de la biopsie. Résultats qu'on a deux jours après, je crois. Et donc, qui révèle une maladie de Hirschsprung, qui est une maladie relativement rare, mais qui touche quand même 5000 enfants en moyenne par an. Et en fait, c'est une partie du côlon plus ou moins importante, ça peut être tout le côlon chez certains enfants, où les terminaisons nerveuses ne fonctionnent pas. Donc en fait, où le message du cerveau de « il faut pousser », ça ne marche pas. Donc, ça s'opère, c'est-à-dire qu'on enlève la partie du côlon qui ne fonctionne pas, mais c'est pas, ça ne se soigne pas. C'est-à-dire que t'as beau opérer, déjà tu vis avec une partie de côlon en moins, donc avec les conséquences que ça peut avoir, et t'as toujours le sphincter qui lui aussi est malade et qui ne s'enlève pas et qui ne se répare pas.
Ah oui.
Donc, et cette opération, donc pour enlever la partie du côlon, tu dois attendre quelques mois que bébé ait un peu grandi. Mmh. Donc en fait, on va avoir notre fils avec une stomie pendant plusieurs mois. C'est particulier. Mais on s'est fait assez vite, mais c'est particulier.
C'est pour ça que tu faisais des blagues tout à l'heure sur le fait de, quand t'arrivais le matin, tu...
Ouais. En fait, ce que je te disais, ouais, pipi caca, et en fait, quand tu comprends que ça va être un peu le truc... Donc voilà. Puis entre-temps, au niveau respiratoire, il s'est bien stabilisé. Mais il respire tout seul, mais il creuse trop. Donc là, on commençait un peu à voir le bout du tunnel, c'est-à-dire qu'il a été opéré, il a évacué, il a sa poche. L'idée, c'est d'attendre qu'il soit grand pour... bref. Et donc là, on dit, tire toujours pour respirer, il y a quelque chose qui ne va pas. On dit, mais encore un truc. On a marre, quoi. Mmh. Tous les jours, on va nous apprendre un truc. Donc, les ORL passent et en fait, il avait une trachéomalacie. C'est-à-dire que... c'est soit, on appelle ça un rétrécissement de la trachée, mais c'est pas vraiment un rétrécissement, c'est surtout que la trachée est très molle. Donc quand tu respires, tu veux, ça se colle. Mais on nous dit, c'est pas catastrophique. Il peut faire comme ça, ça va le gêner un petit peu, mais c'est pas bon. En fait, t'es un peu en ascenseur émotionnel. Et donc là, il se passe une trentaine de jours en néonat. Et on commence à nous parler de la sortie, lumière au bout du tunnel. Et avant la sortie, tu passes par une unité qui s'appelle l'unité kangourou. Donc en fait, c'est un peu comme à la maternité où tu passes en chambre avec ton enfant. Et là, on se dit, c'est bon. On rentre à la maison, quoi. C'était le truc. Et ça va mieux. Et on découvre notre enfant sans fil, sans scope. On le découvre, quoi. Et donc, on sort. Avec, évidemment, il y a du suivi.
Ah oui, bien sûr.
Bah voilà, il y a toujours le problème de l'hypotonie, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et voilà, on sort. Et là, c'est un chouette moment.
J'imagine.
Ouais.
Il a quel âge, là ?
Lui ?
Ouais.
Il a 36 jours.
Ok. C'est long.
C'est long, ouais. Ouais. Quand tu n'as eu aucun moment d'intimité ou presque avec ton enfant, quand tu es passé par mille émotions. Enfin, moi, quand je suis rentrée de la maternité toute seule à la maison, j'ai pleuré comme une enfant. J'avais pas pleuré comme ça depuis longtemps, en sanglots, qui sont vraiment très gros sanglots. Parce que ce n'est pas naturel, en fait, quand tu viens d'accoucher, de rentrer chez toi sans ton enfant. Et là, c'est bon, quoi.
Ok.
Voilà.
Comment va-t-il ?
Aujourd'hui,
donc là, il a bientôt 2 ans, c'est ça ?
Il a bientôt 2 ans. Aujourd'hui, il a un retard dans l'acquisition de ses compétences. Mais globalement, ça va. C'est-à-dire que là, il commence à se mettre debout. On sent que potentiellement, la marche n'est pas très loin, même si on sait que chez lui, tout prend un peu de temps. Mais ça va dans le bon sens. Il a été opéré donc, du côlon. Il a plus sa poche. Là aussi, ça a été compliqué. Il y a eu des gros moments de douleur, mais ça va beaucoup mieux. Il faut juste apprendre à gérer avec. Voilà.
Et vous, comment vous gérez le fait que votre fiston, le petit bébé, là, comme ça, il est mal?
On ne gère pas du tout de la même façon.
Ah. Tiens donc.
On ne gère pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs problématiques. J'ai le fait de ne pas savoir ce qu'il a et on ne savait pas au départ quelle allait être son évolution. Ouais. Là, on est presque 2 ans après, on est quand même rassuré. Donc voilà, mais on est quand même passé par des moments où on s'est demandé ce qui va ne serait-ce que s'asseoir. Voilà, là, on est quand même à une étape où on a de la lumière au bout du tunnel. Donc il y avait vraiment cette interrogation là, avec la recherche génétique qui allait avec. Il y a le truc d'après. C'est-à-dire que pendant toute la durée de l'hôpital, les gens s'inquiètent, sont très présents, voire trop présents. Et après, il n'y a plus personne.
Ouais.
Après, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne. Il y a tel décalage, en fait.
C'est juste que vous êtes laissé...
Voilà. C'est-à-dire que pour l'entourage, de toute façon, il y a le monde qui continue de tourner aussi, forcément. Et puis pour l'entourage, quand tu es à l'hôpital, c'est que ça ne va vraiment pas. Mais quand tu es à la maison, c'est bon. Donc moi, je me suis sentie très seule.
T'as appelé à l'aide ? T'as réussi à appeler à l'aide ?
J'ai essayé beaucoup de fois. Je pense que c'est que maintenant que j'ai réussi à me faire comprendre. Donc tu vois, il a fallu...
Est-ce que t'as la sensation que t'as bien demandé ? Ou alors que...
Non, pas du tout.
Souvent, ça vient de là.
Ouais, non, mais oui, mais parce qu'en fait, t'es un peu partagé entre j'ai envie de parler, j'ai besoin de sortir toutes mes émotions, le traumatisme de la naissance, parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Et en même temps, tu baignes tellement là-dedans que quand t'arrives, puis t'es nouveau parent, quand t'arrives à voir des personnes à l'extérieur, clairement, en fait, t'arrives sur le moment, tu es avec tes potes ou avec ta famille, tu te dis, mais non, j'ai pas envie de parler ça. Donc,
ouais,
c'est une énorme ambivalence.
T'es allé voir un thérapeute, un psy ?
Non, parce que... Alors, à l'hôpital, on t'en propose très rapidement. Et sur le moment, clairement, t'as pas envie de retourner à l'hôpital. T'en sors, donc non. Ouais. Et puis après, ça se paye, un thérapeute.
Faut de l'argent.
Voilà. Et moi, je me suis arrêtée de travailler. Enfin, donc non.
Ok.
Voilà. Et puis, mon mec, lui, il est complètement... Il est dans un regard complètement différent.
Il est dans l'espace, là, c'est ça? Il regarde
tout de là-haut. Il est dans l'espace, et en même temps, c'est vrai qu'on a un petit qui est hyper agréable à vivre, qui, maintenant qu'il est plus douloureux, qu'on a passé la période de l'opération, tout ça, si ce n'est qu'il a du retard qui ne marche pas, il va bien,
ouais.
Si tu veux. Et donc lui, il voit ça et il a raison de voir ça.
Bah oui.
Et c'est ce que je lui ai dit. On a eu des discussions. Moi, je lui ai dit, je te reproche pas du tout de pas avoir le même ressenti que moi.
Enfin, très bonne idée.
Non, mais parce que déjà, il est comme ça. On a vécu la même chose et c'est un peu là où je lui ai reproché quand même de pas être celui qui puisse être vraiment présent et m'écouter, parce que je lui ai dit, il n'y a que toi et moi qui savons vraiment ce qu'on a vécu et ce que c'est que... Mais les perceptions étaient quand même très différentes.
Ouais.
Donc...
Il a tendance à voir le verre à moitié plein, c'est ça ?
C'est au-delà de ça. Je pense qu'en fait, il ne voit vraiment pas le mal.
Ok.
Ouais, c'est plus que de voir, tu sais qu'il y a du négatif, mais tu veux être optimiste.
Ouais.
C'est plus, il voit pas le mal, il voit pas.
Mais c'est sûr que si tu regardes objectivement ton fiston qui était en néonat au bord de la mort, etc., et que aujourd'hui il va bien, certes, il a du retard sur la marche et tout, mais bon, il avait d'autres choses à s'occuper.
Exactement, ouais, tout à fait.
C'est vrai que tu peux regarder ça et te dire, on s'en sort pas trop mal, quoi.
Oui, mais en fait, si tu veux, je pense que...
Par rapport à ton ressenti à toi, j'imagine que c'est autre chose.
Parce qu'en fait, si tu veux, moi, jusqu'à présent, on était un peu dans la course. T'as le nez dans le guidon. T'as pas le temps de réfléchir. Et moi, c'est depuis peu qu'il y a tout qui me revient. Et pour mon mec, c'est mais maintenant, ça s'est calmé. Ça va plutôt bien. Donc pourquoi...
Ouais.
Tu vois ?
Ah oui, oui.
Donc pour lui, il comprend pas pourquoi...
Parce qu'en fait, là, c'est pas un problème par rapport à ton enfant, c'est un problème par rapport à toi.
Exactement.
Et à ta santé mentale.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Ouais.
Tu t'es remise à bosser ?
Non.
Ok.
Non, non, on a eu réponse positive pour la crèche lundi, justement, tu vois.
Ok.
Donc, je reprends à mi-temps dans quelques semaines.
Ok. Ouais. T'as hâte ?
J'ai hâte. Et en même temps, ouais, j'ai hâte parce que... Je voulais pas être femme au foyer. Moi, c'était pas du tout mon délire. Ce...
Ah bah, dis donc.
Et puis j'adore bosser.
La boucle est bouclée.
Voilà, exactement. Donc c'était pas du tout dans mes projets.
Oh, saloperie de vie, hein, vraiment.
Donc oui, j'ai hâte. Et en même temps, j'ai pris beaucoup de distance par rapport à ma vision du travail. Là, j'ai des employeurs géniaux, mais alors géniaux qui m'attendent, qui s'adaptent. C'est-à-dire, j'ai demandé à revenir à mi-temps. Il n'y a pas de souci. J'avais un poste à responsabilité. J'ai demandé à redescendre un peu parce que je ne voulais pas cette charge mentale en plus.
Okay.
Et qu'ils s'adaptent. Et que c'est chouette, il faut le dire, parce que c'est rare, je pense que c'est rare. En tout cas, c'est rare qu'on le dise. Donc, j'ai hâte. Et en même temps, ça va chambouler un peu un rythme qu'on a pris. Mais ça va chambouler. C'est un chamboulement de vie quotidienne qui est cool, quoi. Il n'y a pas un chamboulement de ton fils, il est malade, ton fils, machin. Donc, ouais, j'ai hâte.
Tu vas prendre un peu de tes sous, là, pour aller voir une thérapeute ou un psy, là, parce que ça va t'aider.
Je reprends à mi-temps.
Ouais, mais bon, c'est un bon
investissement. Je reprends à mi-temps, donc...
C'est un bon investissement, j'ai l'impression que tu as besoin de parler.
Ouais, attends, je pense qu'il y en aura besoin.
Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler?
Ouais, il y a tellement de choses à dire. De toute façon, t'as remarqué que je suis bavarde. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, il y a une chose que j'aimerais souligner et que pour le coup, c'est plus pour les personnes qui peuvent nous écouter et qui, pas forcément les personnes qui sont concernées directement, mais l'entourage. Je pense que c'est important d'être là et d'être là si possible sur la durée. Parce que ça ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital quand on sort, parce que être trop présent, trop interrogatif, à appeler tout le temps pendant la durée d'hospitalisation, ce n'est pas à faire.
Oui, parce qu'en plus, vous ne savez pas.
Comment ?
En plus, vous ne savez pas. Donc
C'est ça, en fait. Nous, des fois, on nous demandait des rapports médicaux, mais en fait, non, voilà. Et il n'y a pas grand-chose à faire dans ces cas-là, parce qu'on ne révolutionnera pas l'hôpital et ses manques de moyens et tout ce qui fait que c'est hyper dur à vivre au-delà de la maladie elle-même, et l'univers fait que c'est super compliqué. Ça, je pense, je ne veux pas dire que j'ai pas d'espoir, mais je ne veux pas me lancer là-dedans. Mais
en tout cas, ce n'est pas un truc sur lequel tu as le contrôle.
Voilà, exactement. Ouais. Mais je pense qu'il faut que l'entourage soit là, et je pense qu'offrir 20 doudous à la naissance, ça ne sert à rien, mais qu'offrir des séances chez le psy pour les parents, ça peut être... Même si je pense que c'est pas facile à amener, hein. Mais ça peut être une bonne idée. Parce que le gamin, il en a rien à faire d'avoir 10 doudous.
Tout
je pense qu'il veut des parents qui aillent bien. Moi, ça a beaucoup affecté ma relation avec mon fils. Elle est compliquée. Donc je pense que le meilleur cadeau qui aurait pu être fait, c'était ça et pas...
Incroyable.
Il faut le dire parce que je pense que...
Tu crois que tu aurais pu le demander, ça? Non, mais parce que
je sais pas si j'aurais pu le demander, je sais même pas si à l'époque.
T'en avais conscience.
J'en avais conscience, ouais. C'est ça.
Ouais. Bah, il est temps.
Ouais.
C'est bientôt Noël.
C'est ça. Non, mais c'est enveloppe avec un petit nœud dessus. Mais ouais, je pense que l'entourage en ce moment-là, c'est super important.
Et il y a autre chose aussi, c'est que j'avais entendu un papa qui disait mais en fait, si vous voulez venir aider les jeunes parents qui viennent. En fait, venez faire à bouffer.
Exactement.
Ça, c'est un putain de cadeau aussi.
Ouais.
Venez ramener de la bouffe, venez faire à bouffer. C'est trop cool, quoi. C'est vraiment
le ménage.
Genre de charge. Voilà, le ménage, le genre de enlever le plus de charge mentale possible.
C'est ça.
Et puis, si vous êtes dans le cas de Justine, je crois aussi que c'est cool aussi d'apprendre à demander de l'aide et à le verbaliser, tu vois. Et
putain,
j'ai besoin de toi.
Non, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est vrai que je pense que, en dehors de cet épisode-là, je pense qu'on est beaucoup à ne pas oser demander de l'aide. Ouais. Donc, effectivement, il y a un travail à faire là-dessus. Après, quand tu es sous l'eau, c'est compliqué.
C'est pas pour dire.
Voilà. Et c'est pour ça, quand même, que je pense que l'entourage peut très bien imaginer que.
Oui. Mais si toi, tu es forte et que tu fais la meuf forte, tu vois. On se dit ok, bah, elle gère, pas de problème.
Oui, pas faux.
Si Louis écoute ce podcast dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
Oh là là, tu vas me.
Tu m'as fait un fuck ?
Non, pas du tout.
Enfin, non, c'est pas non, non.
T'as levé je m'attendais petit, pas à cette question. Tu vois, ça me collait les larmes aux yeux alors que...
c'est fou.
L'effet. Je vais lui dire qu'il est fort, déjà. Évidemment que je l'aime et qu'on l'aime tous les deux très très fort. Et puis j'espère que dans 10 ans... quel que soit son état, sa santé, enfin bref, j'espère qu'il est heureux. Mmh. Ouais. Surtout ça.
Merci Justine.
Merci à toi.
C'était super. Ouais. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.